Frères et sœurs, ainsi donc, nous voici presque au bout du temps de l'Avent. C'en est le bout, en tout cas, en termes de dimanche, qui est le minimum, vous savez, pour la durée du temps de l'Avent, 4 dimanches. Puisqu'aujourd'hui, c'est le 4e et dernier dimanche de ce temps liturgique. Si dimanche prochain, d'aventure, vous allumiez une 5e bougie, c'est que vous aurez zappé Noël. À quoi nous est-il donné de l'accueillir comme tel, ce 4e et dernier dimanche de l'Avent ? Eh bien, aux 3 lectures proclamées. Une prophétie énoncée par le Seigneur dans le cours de l'histoire de son peuple qu'il s'est choisi, Israël. L'amorce du dévoilement du sens de cette prophétie, les paroles d'un ange du Seigneur à une toute jeune femme et la réponse de celle-ci, et entre les deux, la prière conclusive d'une longue lettre, un long enseignement de l'apôtre Paul à ses frères et sœurs juifs ayant reconnu en Jésus le Messie. Prière de louange à celui qui vient d'accomplir la prophétie. Le roi David éprouvait en lui-même une très mauvaise conscience d'habiter une maison luxueuse, alors que l'arche d'alliance, qui était, vous le savez, le signe liturgique de la présence du Seigneur au milieu de son peuple, cette arche d'alliance logeait sous une simple tente. Il compte donc bâtir pour lui un grand et vaste temple, une maison vraiment digne du Seigneur. Eh bien, le Seigneur va lui faire savoir, au fond, qu'il n'en a pas besoin. Tout au contraire de ce que David pouvait imaginer, c'est le Seigneur qui lui fera une maison. Comprenons bien, cependant, il ne s'agit pas d'une maison de pierre, il a tout ce qu'il faut, mais toute une descendance, une famille, une lignée, une postérité, ce qu'on appellera désormais la maison de David. L'Évangile, lui aussi, rapporte un événement dans le cours de l'histoire du monde. Seulement, cet événement ne s'est pas passé dans un palais de roi. Pas même dans la grande cité Sion, la capitale d'Israël, Jérusalem. Non, ce fut dans un village obscur de Galilée. Il n'en est jamais, jamais fait mention dans la première alliance. Ce petit village de Nazareth en Galilée et dans la maisonnette de gens sans fortune et de leur fille qui se prénommait Marie. Et là encore, il n'y a ni roi ni prophète officiel de Dieu auprès de ce roi, juste le stupéfiant dialogue intérieur entre Dieu et un être humain à vue humaine de l'actualité du temps, tout à fait insignifiant, cette toute jeune femme qui vient tout juste d'être accordée en mariage. L'unique, mais essentiel, point commun entre les deux scènes, vous savez quel écart de temps il y a entre les deux, à la louche, pas une affaire d'années, de siècles, 900 ans d'écart entre ce qui se passe dans le palais de David et ce qui se passe dans la bicoque de Nazareth, eh bien, l'unique et essentiel point commun, c'est la maison de David. Car le mari de la jeune femme, un certain Joseph, est de cette maison. Il est un des descendants de David. Et le fil conducteur de la première lecture jusqu'à l'Évangile, je l'ai déjà dit, c'est prophétie. Bon, nous connaissons plus ou moins l'histoire de David, mais je n'aurai pas l'outrecuidance de vous interroger. Vous savez, un certain rayon, vous en ignorez aussi pas mal. Nous connaissons, je suppose, encore mieux le récit de la visite de l'ange Gabriel, ne serait-ce que par les églises et la visite des musées, nombreuses annonciations florissent, hein, voilà. Nous le connaissons, pour ainsi dire, par cœur, hein, voilà. Je dirais, nous le connaissons trop, comme s'il n'avait peut-être plus rien vraiment à nous apprendre de neuf. En quoi nous avons bien tort? C'est ici qu'il faut écouter Saint Paul. Et oui. à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, à lui, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette prière de l'apôtre, à votre avis, à qui l'adresse-t-il ? Silence de mort. Je crois qu'on peut répondre à Dieu. Hein. Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr, c'est une prière à Dieu. Hein. Voilà, nos prières s'adressent à Dieu. Hein. Oui, mais à Dieu le Père, à Dieu notre Père, parce qu'il est le Père du Christ Jésus. Et deux termes rythment cette prière puissante, cette prière solennelle et ferme, tous deux des termes répétés chacun une fois. Jésus-Christ et mystère. À celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile. Sommes-nous faibles ? Et nous le sommes. Fragiles ? Sujet à bien des tentations, des épreuves ? Eh bien, le Dieu qui nous aime veut et peut nous rendre forts de sa force même. Le temps de l'Avent s'achève d'un point de vue liturgique sur cette note puissante. Le Dieu qui vient à l'homme vient pour le rendre fort et l'arracher à toute forme de faiblesse mortifère, pernicieuse ou désespérante. Nous sommes peut-être surpris par ce possessif, hein, mon évangile. Quoique souvent vous ne dites pas ça aux gens, ben, je vais t'annoncer mon évangile. Mon évangile, je le tiens, appartient à tout le monde, c'est l'évangile, n'est-ce pas ? Alors, oui, bien entendu. Et en plus, cet emploi est rare, mon évangile, chez saint Paul. Mais il s'explique par la suite. Mon évangile qui proclame Jésus-Christ. Autrement dit, l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle que je vous annonce, moi, Paul, elle consiste à proclamer Jésus-Christ et personne d'autre. Alors là, vous me direz, bah, et Dieu alors, hein, l'évangile ne proclamait-il pas Dieu ? Bien sûr que si. Mais comme le répète plus loin saint Paul, dans les tout derniers mots de sa prière, de sa lettre aux Romains, à lui, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles des siècles. Voyez-vous, l'Avent, Noël, Pâques, tout est lié. Tout est lié dans la foi de l'Église. Il s'agit de Dieu qui vient à l'homme, à nous donc, en se faisant homme. Et c'est avec une grande justesse qui m'a beaucoup illuminé, mon intelligence notamment, de jeune homme de 15 ans, que j'ai découvert cette phrase du grand savant et philosophe chrétien français Blaise Pascal. Sans Jésus-Christ, nous ne savons pas qui est Dieu. Sans Jésus-Christ, nous ne savons pas qui nous sommes, ni ce que c'est que la mort, ni ce que c'est que la vie et le monde. Mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Oh, qu'est-ce qui est révélation ici ? Mon évangile qui proclame ou bien Jésus-Christ que cet évangile proclame ? À mon avis, les deux. Car comment Jésus veut-il se révéler sinon à travers sa bonne nouvelle que nous avons à diffuser, à offrir, à partager ? Mais ultimement, c'est lui-même qui se révèle. Et là, je voudrais pouvoir vous inviter, nous inviter, à élargir considérablement nos regards et notre esprit, bien plus que la plupart des catholiques, dont je suis, nous le faisons habituellement par rapport à nos frères et sœurs orthodoxes. Car le mystère en question n'est pas purement et simplement celui de la naissance, unique entre toutes, que nous allons fêter dans quelques jours, Noël. Non, c'est cela et bien plus. C'est bien plus grandiose encore. Pas le mystère simplement d'une nuit obscure, comme on dit, on le chante dans les vieux cantiques de Noël, à Bethléem de Judée, une nuit parmi des milliards de milliards d'autres nuits. C'est le mystère du Fils de Dieu ayant, comme dès avant la création de l'homme, choisi, voulu et résolu d'être l'image selon laquelle les hommes seraient créés par lui, son Père et l'Esprit, œuvre de la Trinité entière. C'est le mystère d'une venue depuis toujours et pour toujours, et non pas d'une venue qui serait venue arriver au bout d'un certain temps. Alors, si nous sommes portés par cette foi, qui est la foi de l'Église universelle, nous pourrons bien nous préparer à accueillir celui qui est venu un jour du temps, conçu de l'Esprit-Saint, né de Marie, et même engendré en elle, comme le dit avec tant de réalisme saint Matthieu, engendré en elle. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen.